12h, Céline Landreau et Éric Brunet.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce RTL Midi. 2h30 d'information, 2h30 d'opinion, ça va jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau et c'est tout de suite, bonjour.
Bonjour Éric, bonjour à tous. Et à la une, un coup de feu au petit matin sur une aire d'accueil de gens du voyage. Le chanteur Kenji Girac a été très grièvement blessé, c'était cette nuit à Biscarros. Il est actuellement hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger. Kenji Girac assure qu'il s'agit d'un accident, on y reviendra longuement dans cette édition. À suivre aussi, quel bilan pour les opérations PlaceNet XXL un peu plus d'un mois après leur lancement pour lutter contre le trafic de drogue à Marseille et alors que 9 villes sont désormais concernées, RTL a voulu faire le point. Les Français et la vaccination, c'est mieux, souligne aujourd'hui Santé publique France, même si chez les adultes il y a encore trop de récalcitrants pour les autorités de santé. Et puis à midi 20, vous le savez, c'est RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien, dans votre assiette aujourd'hui. On vous dira tout sur la tomate, fruit de saison par excellence. Et puis à partir de 13h, vous le savez, un seul numéro, le 3210 pour discuter avec Éric Brunet.
Oui, on ouvrira sur ce témoignage d'un médecin dans le Cantal, toujours médecin à 75 ans. Le Cantal compte de plus en plus de généralistes qui ont plus de 65 ans. Ben oui, il y a de moins en moins de médecins apparemment et il reste de plus en plus tardivement. Est-ce que vous êtes vous aussi confronté à cela? Appelez-nous au 3210 sur ce sujet des médecins âgés qui continuent à travailler parfois jusqu'à plus de 80 ans.
Avant ça, la météo avec vous, Claire Delorme, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Et le froid, évidemment, à la une, Claire.
Absolument, des températures assez fraîches, variant cet après-midi de 10 à 15 degrés en général, et puis un ciel tout en nuances de gris cet après-midi.
Merci Claire, les détails à la fin du journal.
RTL Midi.
Il était environ 5h30 quand les secours ont été appelés pour une blessure par balle sur une aire d'accueil de gens du voyage de Biscarros dans les Landes. La victime, le chanteur Kenji Girac, très grièvement touché au thorax. Bonjour Clara Etchari.
Bonjour.
Clara, on vous retrouve devant les urgences de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, donc où Kenji Girac a été admis tôt ce matin, avec des nouvelles plutôt rassurantes.
Oui, le pronostic vital du chanteur n'est plus engagé, il est conscient et aurait commencé à raconter aux enquêteurs ce qu'il décrit comme un accident domestique. Alors dans ce cas précis, c'est plutôt la mauvaise manipulation par Kenji d'une arme qu'il aurait achetée la veille sur une brocante. Il aurait donc reçu une balle dans la poitrine. Quand les secours sont arrivés sur place tôt ce matin, ils auraient trouvé le chanteur conscient à l'extérieur de sa caravane. Il a ensuite été transporté ici à Bordeaux. Aux abords de l'hôpital, tout est calme. Quelques proches se sont présentés à l'entrée des urgences. Un oncle, un cousin, des amis qui tentent d'en savoir un peu plus sur l'état du chanteur de 28 ans. C'est le parquet de Mont-de-Marsan qui est chargé de l'enquête, mais ne peut fournir aucune information sur cette affaire pour l'instant. Les enquêteurs doivent maintenant vérifier les premières déclarations du chanteur.
Clara Etchari à Bordeaux pour RTL. Près de 8 ans après l'attentat qui a fait 86 morts sur la promenade des Anglais, c'était le 14 juillet 2016 à Nice. Le procès en appel de deux proches du terroriste s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ils avaient été tous deux condamnés en première instance à 18 ans de réclusion pour participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels.
Et puis les Français se vaccinent plus, davantage, mais ce n'est toujours pas suffisant pour les autorités de santé.
Oui, après des débats très enflammés au moment du Covid sur l'intérêt et les risques supposés ou réels de la vaccination, Santé publique France publie aujourd'hui un état des lieux de la couverture vaccinale dans le pays. Agathe Landé, la bonne nouvelle, c'est que chez les plus jeunes, les indicateurs sont plutôt au vert.
Oui, d'abord chez les nourrissons, on note une progression importante de toutes les couvertures vaccinales. C'est le cas par exemple pour le vaccin contre le méningocoque B, responsable de méningite. 75% des nourrissons nés en 2023 ont reçu ce vaccin, contre seulement 49% des bébés nés en 2022. Cette vaccination a donc progressé très fort, alors même qu'elle n'est que recommandée. Et puis du côté justement des vaccins obligatoires pour les tout-petits, on est à plus de 95% de couverture vaccinale. On parle là des vaccins contre la polio, la coqueluche, la rougeole ou encore l'hépatite B.
En revanche, chez les adultes, Agathe, il y a encore des angles morts.
Oui, Santé publique France estime que la couverture vaccinale des plus fragile contre la grippe et la Covid est insuffisante. Concernant d'abord la grippe, cet hiver, un peu plus de la moitié des plus de 65 ans, 54% se sont fait vacciner. C'est en baisse de 2 points sur un an. Mais surtout, on est très loin des 75% de couverture vaccinale recommandée par l'OMS. Et puis concernant le Covid, cette vaccination marque clairement le pas puisque seuls 30% des plus de 65 ans se sont fait vacciner cet automne.
Agathe Landé, spécialiste santé de RTL, merci. Le projet de loi sur la fin fin de vie arrive à l'Assemblée aujourd'hui, début des auditions en commission spéciale. Le tout début d'un parcours législatif qui s'annonce long et qui pourrait durer jusqu'à 2 ans. À l'étranger, le chef du renseignement militaire israélien a démissionné. Il dit assumer sa pleine responsabilité dans l'échec à prévenir l'attaque menée le 7 octobre dernier par le Hamas. C'est le premier responsable à démissionner depuis cette attaque.
RTL Midi.
Et puis je vais vous faire la météo aujourd'hui, tiens, un petit peu de météo.
D'ailleurs, cette petite voix enrouée nous dit quelque chose du temps.
Tout à fait. En tout cas, il faut que je vous parle du printemps qui nous semble bien loin aujourd'hui dans une grande partie du pays.
Jusqu'à moins 3 degrés à Nevers cette nuit, des gelées qui ont été observées dans le centre-est du pays. Après un hiver doux, Eric, ce coup de froid fait mal, très mal même à certaines plantes. Les vignobles, par exemple, particulièrement exposés à cette période de l'année. Jérôme Vol, Elvis, président de la FNSEA et viticulteur en Ardèche.
Il y a eu du gel très marqué dans le Var, dans le Vaucluse pour la filière viticole, ainsi que dans le Gaillac et d'autres régions. Au sud-ouest, on a des impacts très forts de jet déjà. Cette nuit, il a fait un peu frais, très frais. Dans certaines zones, ça a d'ailleurs fait quelques dégâts. Dans d'autres zones, il y a eu un léger vent qui a permis d'éviter cette gelée blanche trop forte et qui a emporté la récolte. Là, on attend demain la nuit la plus froide qui peut continuer mercredi et jeudi. J'espère qu'on n'aura pas trop d'impact et qu'on arrivera à sauver les productions.
Un propos recueilli pour RTL par Alexandre de Saint-Aignan. Le froid, justement, Claire Delorme. On vous retrouve, ça va continuer.
Exactement, c'est même un froid qui va s'installer encore pendant toute la semaine. On est environ 5 à 6 degrés en dessous des normales, donc là on est plutôt digne d'un mois de mars en fait. Et donc ces températures, en tout cas ce ressenti de froid, il ne sera qu'accentué cet après-midi par la présence de ce vent d'est à nord-est qu'on appelle la bise. Et donc il va s'engouffrer un petit peu dans toutes les régions et particulièrement dans le sud-est. Donc côté ciel, c'est pareil, ça se traduit par de nombreux nuages allant donc du quart sud-ouest, enfin, du quart nord-ouest en descendant vers le sud-est. On pourrait même avoir quelques averses qui vont se développer dans l'après-midi vers le quart nord-est, surtout près de la Champagne, les Hauts-de-France, mais également en direction du sud, près de la Côte d'Azur, où elles seront un petit peu plus copieuses, ces averses. Et elles pourraient d'ailleurs être ponctuées d'un coup de tonnerre, de la neige à basse altitude à partir de 700-800 mètres pour les Alpes. Donc moralité, pour un temps un petit peu plus clément, calme et sec, faudra se rendre dans le sud-ouest. Et donc les températures, vous l'avez parfaitement dit, 10 à 15 degrés. En général, 11 degrés à Lille cet après-midi, 11 degrés à Paris, 13 degrés à Brest et ça peut grimper jusqu'à 19 degrés en Méditerranée.
Vous le dites quand même mieux que nous, merci.
RTL Midi, un jour chez vous.
RTL Midi, un jour chez vous. Chaque jour, l'info est au plus près de vous. Et aujourd'hui, nous allons à Nice, où le Premier ministre Gabriel Attal vient assister au lancement de, écoutez bien, l'internat éducatif.
Oui, au lycée du Parc Impérial, plus précisément, où l'on vous retrouve, Arthur Bellier. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour Eric, bonjour à tous.
L'internat éducatif, un dispositif expérimental pour accueillir le temps des vacances des jeunes et les empêcher, c'est tout l'objectif, de tomber dans la délinquance.
Oui, ils sont une vingtaine de jeunes de 13 à 16 ans à avoir fait leur entrée ce matin dans les imposants murs jaunes de ce lycée à Nice. Première étape de leurs 12 jours d'internat ici, enfiler l'uniforme, remis par Gabriel Attal lui-même, un jogging bleu au liseré rouge et blanc. Ensuite, en rang, main dans le dos, les 20 jeunes ont eu le droit au mot de bienvenue par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.
Vous, les gamins, là, je vais vous dire une chose, l'idée c'est de vous aider. L'idée c'est d'aider vos mamans, l'idée c'est de faire de vous des citoyens éclairés, et ce projet est un projet porteur d'espérance. Pour ces jeunes qui sont en train de dériver, on peut le craindre, mais qui n'ont pas commis d'actes de délinquance. Ici, il ne s'agit pas de punir, il s'agit de prévenir.
Sont des jeunes à la dérive, ça fait penser à ce que disait il y a quelques jours le Premier ministre, Gabriel Attal, placer ces jeunes qui sont dans les quartiers, dans des établissements, des internats, pour éviter qu'ils ne dérivent davantage. Est-ce qu'on sait, Arthur, comment ces jeunes ont été choisis ?
Alors ce sont des jeunes repérés par l'éducation nationale ou par les services sociaux. Ce ne sont pas des délinquants, vous avez entendu, non, mais des jeunes en décrochage scolaire ou surveillés de près par la protection judiciaire de la jeunesse. Ce sont ces services qui proposent aux parents ce stage. C'est aux parents d'accepter, rien d'obligatoire. La maman de Emna et Djibril est convaincue du bénéfice de ce stage pour eux. Son fils Djibril, lui, est moins ravi d'être là.
c'est pas évident en tant que parent de dire mince, on a du mal, on a l'impression d'avoir raté son rôle de mère. Moi, je les ai inscrits ici déjà, c'est pour leur montrer mon amour et pour les sauver. C'est pas une punition que je leur inflige. Là, ça va leur permettre vraiment d'avoir un cadre.
Et voilà. C'était quoi leur première réaction quand vous leur avez dit que ça vous
intéressait ? Ah non, maman, je t'en supplie, non.
Ma mère, elle m'a forcé, c'est tout. En mode, elle m'a dit qu'il y avait des activités et tout ça, mais il y a rien.
Et pourquoi tu voulais pas ?
Parce que je voulais rester avec mes collègues, je sais pas, dehors et tout.
Bon, alors les activités, c'est pas sûr. Qu'est-ce qui les attend durant ces deux semaines, Arthur, ces jeunes ?
Eh bien, un réveil à 7h, Marseillaise, lever des couleurs, et puis du sport, de l'instruction civique, du soutien scolaire, des activités culturelles, ciné, musée, théâtre, et une visite mémorielle dans un camp de déportation. Le tout chapeauté par 13 encadrants, des réservistes de la gendarmerie, des éducateurs spécialisés, des professeurs, un psychologue. Et dans 12 jours, les jeunes retrouveront leur quartier, mais seront suivis par ces encadrants pendant au moins 6 mois ensuite.
Merci beaucoup, Arthur Bélier. À Nice, donc, pour RTL.
Dans un instant, Kenji Girac, le chanteur blessé par balle.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Éric Brunet, RTL Midi.
La nouvelle est tombée peu après 8h ce matin. Le chanteur Kenji Girac, hospitalisé à Bordeaux après une blessure par balle au thorax dans la nuit à Biscarrosse.
Oui, son pronostic vital n'est pas engagé. Hein. On le rappelle, on en a parlé dans le journal.
Mais ce matin, il l'était engagé, son pronostic vital. C'est ce qu'on disait en tout cas.
Oui, c'est ça. Un temps, on a eu ces informations-là. En tout cas, ce n'est pas le cas. On rassure tous les fans. Il est tiré d'affaires et on va revenir tout de suite sur ce que l'on sait des faits avec vous, Maxime Lévy. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste police justice à RTL et bonjour Steven Bellery.
Bonjour à tous.
Notre spécialiste musical. Maxime, d'abord, les secours, on le disait, ont été appelés au milieu de la nuit sur une aire d'accueil de gens du voyage.
Oui, à Biscarrosse, dans les Landes, les gendarmes sont également prévenus. Il est environ 5h30 du matin. Sur place, ils font face à une vingtaine de personnes assez peu coopératives qui leur disent en clair qu'il ne s'est rien passé. Mais une heure plus tard, vers 6h30, les pompiers rappellent les gendarmes. Il y a bien eu une victime par balle. Il s'agit non moins que du célèbre chanteur de 27 ans, Kenji Girac. Il est hospitalisé en urgence à l'hôpital de Bordeaux. On sait que son pronostic vital donc n'est pas engagé.
Une blessure par balle, évidemment, ça interroge, mais le chanteur, lui, conscient, assure que c'est un accident.
Oui, lui affirme s'être tiré lui-même dessus dans le thorax en manipulant l'arme. Il assure qu'il s'agit d'un accident domestique. En somme, alors, les enquêteurs sont en train de vérifier ses déclarations, voir par exemple s'il ne couvre pas quelqu'un. Je précise, rien ne l'indique pour le moment, mais les gendarmes ont tout de même mené toute une série de vérifications, déjà en auditionnant les personnes qui se trouvent sur l'aire d'accueil, voir si leurs déclarations concordent, et puis en analysant les mains du chanteur, voir si de la poudre s'y trouve en quantité suffisante. Ils ont également analysé les mains de sa conjointe, permettant d'accréditer ou non cette thèse de l'accident.
Cette arme, en tout cas, Maxime, il explique qu'il n'avait que depuis très peu de temps.
Oui, toujours selon ses premières déclarations, il assure avoir acheté l'arme hier dans une brocante. Alors cela pose inévitablement cette question. Kenji Girac avait-il le droit de détenir une arme ? Pour le moment, nous ne le savons pas. Et puis tout dépend du type d'arme qu'il a acheté. Une arme récente, une arme de collection, une arme de guerre. Les plus anciennes peuvent se retrouver en vente libre. Mais quoi qu'il en soit, une arme à feu non neutralisée nécessite un permis de port d'armes.
C'est ça, pour les armes de collection les plus anciennes, il n'y a pas besoin de permis de port d'armes, pour être très clair.
Tout à fait.
En tout cas, il va à peu près bien. Il y a eu vraiment une grosse frayeur ce matin.
Oui, tout à fait. Il est hospitalisé, mais il est pris en charge, mais son pronostic vital n'est pas engagé, il est stable.
Steven, vous êtes spécialiste musical ici à RTL. Kenji Girac, c'est une star de la chanson, et quelle star. Et ce qui peut surprendre, c'est qu'il n'a pas changé de vie depuis qu'il est devenu très célèbre.
Oui, il aurait pu, tant son succès était fulgurant, révélé il y a pile 10 ans dans The Voice. Kenji Girac est devenu l'une des jeunes stars de la chanson française grâce à sa gypsy pop. Il a publié 5 albums déjà écoulés en cumulé à 4 millions d'exemplaires. Co-auteur, co-compositeur de ses morceaux, il a enchaîné les tournées à succès jusqu'à devenir l'un des artistes préférés des enfants notamment. Kenji, devenu populaire et riche, n'a pourtant jamais changé de mode de vie, restant fidèle à ses racines qu'il ne cesse d'ailleurs de chanter. Il m'avait ainsi confié vivre toujours dans sa caravane.
C'est vrai que c'est très étonnant. Beaucoup de gens, ça se pose la question tous les jours. Comment ça se fait que j'habite encore dans ma caravane, c'est vrai. Moi, j'aime bien. Moi, ça me plaît. C'est moi chez moi. J'aime bien cet endroit. On adore ce voyage, ce lieu, la caravane. On rouvre la porte le matin, le chant des oiseaux, le soleil, quand il fait beau l'été.
Mais vous avez besoin de ça pour garder les pieds sur terre ou pour ne pas oublier d'où vous venez?
Je n'ai pas forcément besoin de ça. Je suis un garçon quand même. Je sais réfléchir à ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. J'ai grandi avec cette vie-là. Je suis venu artiste en ayant cette vie-là. Alors, tant que ça dérange pas les autres, hein.
Kenji Girac, c'était il y a combien de temps ça, Steven ?
Une dizaine d'années, voilà. À ses tout débuts, il m'expliquait qu'il ne voulait rien changer à son mode de vie. Et il continue d'ailleurs à retourner en Dordogne, où sa famille habite. Puis il reste aussi un peu à Paris de temps en temps pour ses activités artistiques et puis ses tournées qui sont longues.
Mais... merci.
Bon, on est rassuré en tout cas sur sa santé, apparemment.
Il est conscient.
C'est moins grave que nous ne le pensions ce matin. Merci beaucoup les amis. De quoi allons-nous parler dans les prochaines secondes?
Ben, vous le savez, dans quelques minutes, c'est RTL Midi, votre vie, le rendez-vous de votre quotidien. On va dans vos assiettes aujourd'hui. Même s'il y a, on en a parlé, ce petit coup de froid en ce moment qui donne peut-être un peu moins envie de manger des salades et un peu plus de soupe, on va quand même vous parler de la tomate. C'est le fruit de saison par excellence quand le temps est de saison. Et on en parle tout de suite.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie. Car l'info, vous le savez, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
C'est le fruit de saison par excellence, bien que certains l'appellent légume, car c'est un légume, un fruit, je ne sais pas trop. Non, c'est un fruit, c'est un fruit. On vous parle de la tomate. Bonjour Pierre Botte, on est avec Pierre Botte. Vous êtes agriculteur à la ferme familiale Trubil-Botte à Saclay en Ile-de-France, c'est bien ça. Et vous
oui,
faites
bien
de
ça.
La vente directe, fruits et légumes, et notamment de tomates.
Oui.
Est-ce que, en cette fin de mois d'avril, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont de saison ou qu'il est encore un peu trop tôt, mon cher Pierre?
Alors, dans la région Île-de-France, les toutes premières arrivent chez les maraîchers qui les font dans des serres avec un peu de chauffage. Nous, sur notre exploitation, il va falloir attendre encore un mois à peu près pour avoir les premières tomates. Mais la saison a commencé dans le sud de la France aussi. Voilà, la France est hétérogène et les précocités sont pas les mêmes. Et puis, ne parlons même pas des dom-toms, quoi. C'est toujours la saison de la tomate quelque part en France, de toute façon.
Est-ce que ça dépend aussi des variétés, la précocité? D'ailleurs, combien de variétés de tomates existent-il?
Oh, je sais pas, je crois qu'il y en a plus de 500. Moi, sur mon exploitation, j'en ai... alors, je les collectionne pas, hein, mais j'en ai entre 15 et 20 que je cultive, suivant les précocités, les formes, les goûts, les couleurs, etc. Mais il en existe toute une diversité possible, imaginable. Et puis, il y en a pour tous les goûts, quoi.
Et la tomate est un fruit, un légume, un fruit, hein?
Alors biologiquement c'est un fruit, voilà. Mais effectivement c'est un légume pour le consommateur. C'est d'ailleurs le légume le plus consommé en France.
Est-ce que la tomate cerise c'est une tomate comme les autres?
Oui, c'est une tomate comme les autres, sauf que elle est plus petite. Elle est pour le producteur, elle va se travailler un peu différemment, mais ça concerne pas le consommateur parce que ça va pas se tailler pareil, ça va pas voilà se conduire pareil exactement, mais comme culture. Mais c'est une tomate comme une autre.
Vous parliez tout à l'heure des 15-20 variétés que vous avez, des couleurs différentes. C'est vrai que depuis quelques années, sur les étals des marchés, on en voit davantage de vert, de jaune, de noir aussi. Ça veut dire que les goûts ont changé, c'est terminé. L'ère de la tomate qui serait uniquement toute ronde et rouge?
Oui, je pense que ça amène un peu de diversité dans l'assiette. Ça nuit pas, ça permet d'avoir différents goûts sur un seul légume. C'est un peu comme les pommes où on a différentes tailles, différentes couleurs, différents goûts. Effectivement, ça permet de varier les goûts sur la saison, quoi.
Oui, mais moi souvent j'en achète des noirs avec du relief ou bien des vertes, etc. Et je me rends compte qu'en réalité le goût n'est pas ultra original et parfois les plus savoureuses, c'est pas forcément celles qui ont le plus de couleurs originales.
Alors ça dépend de vos goûts. C'est sûr que si vous les préférez sucrées, vous allez être sur des petites tomates qui vont être forcément plus sucrées, sur de la tomate cerise par exemple, ou de la tomate cocktail. On va avoir des tomates plus acides comme les vertes qui sont plus acidulées. Toutes ces variétés là ont chacune leur typologie, et puis plus charnues, plus fermes, plus fondantes, plus juteuses. Ça dépend des goûts de chacun, quoi. Il y a vraiment, enfin moi, sur la diversité de tomates qu'on cultive, il y a chaque consommateur a ses propres goûts, quoi.
Vous le disiez, c'est le fruit le plus consommé par les Français, la tomate. Quelle qualité nutritionnelle est-ce qu'on lui trouve ? Quel intérêt ? Bah,
je pense que déjà c'est synonyme des beaux jours, hein, pour tout le monde, donc c'est bon pour le moral déjà. C'est les goûts, les couleurs, etc. L'appétit dans l'assiette vient par la couleur, le goût, la diversité et tout ça. Et puis effectivement c'est signe de soleil, de beaux jours, donc forcément c'est bon pour le moral. Et très souvent on critique les consommateurs qui prennent des tomates en hiver, mais forcément ils ont des envies de soleil des fois, quoi.
Vous qui produisez des tomates, je rappelle que vous êtes agriculteur à la ferme familiale à Saclay en Île-de-France, Trubuil-Botte. Quelle est votre tomate préférée ?
Ah, moi j'ai une vieille variété de tomate.
Ah, on le saura jamais. On a perdu la ligne. On ne saura jamais. Il a peut-être été...
Vous êtes le roi du suspect. Vous le lancez sur la question. On attendait la réponse pour savoir quelle course on allait faire.
Attaqué par un agriculteur voisin qui ne voulait pas...
Vous êtes revenu, Pierre Botte.
Pierre Botte, quelle est votre tomate préférée alors ?
Allô, allô.
Oui, on ne vous a pas entendu. Vous avez été victime d'un agriculteur.
Moi, j'ai une vieille variété de tomate de jardin qui date de 1963, qui est une variété de l'INRA. Il y a une variété qui a été inventée par l'INRA en 1963, qui est une vieille variété de tomates que je cultive, qui est la Montfavet. Voilà, c'est une variété assez ancienne de tomates, mais elle a un goût un peu acidulé et sucré. C'est une tomate assez précoce en plus, et c'est une belle tomate de saison.
La Montfavet.
Je ne connaissais pas.
La Montfavet. J'ai 3 kilos de Montfavet.
Merci.
On vous entend très bien.
Merci beaucoup, Pierre Botte. On rappelle que vous êtes agriculteur à la ferme familiale Trubuil-Botte à Saclay en Île-de-France. Merci pour cet éclairage sur le fruit de saison le plus consommé, vous le disiez, par les Français chaque année.
Moi, j'observe que quand même les plus sucrés, c'est en général les petits formats. Les tomates cerises, c'est celles qui recèlent le plus d'arômes sucrés, nous a-t-il dit.
Et on vous sent gourmand. Éric, justement, à partir de 13h, vous accueillez les auditeurs au 3210. Rappelez-nous les grands sujets du jour, s'il vous plaît.
On a découvert dans ce quotidien vous savez, de Auvergnat, le grand quotidien régional qui s'appelle La Montagne, l'histoire de ce médecin qui exerce toujours, un généraliste à 75 ans dans le département du Cantal. Voilà. On trouve ça dingue. Bon, il n'a pas trouvé de successeur. Alors, face à la pénurie de médecins, est-ce que les généralistes en France vont être condamnés à travailler presque à vie, faute de jeunes pour prendre la suite? Eh bien, si vous êtes médecin, appelez-nous. Si vous êtes patient d'un médecin qui a plus de 70 ans, appelez-nous également au 3210. Je souhaite engager ce débat qui touche à la démographie médicale, ces médecins qui sont pratiquement généralistes à vie. Voilà le thème avec lequel nous allons commencer tout à l'heure.
3210, vous connaissez le numéro. Le standard, lui, est déjà ouvert. On attend vos appels. À tout à l'heure. D'ici là, dans quelques instants, c'est le retour de l'info avec le journal de 12h30 présenté par Agnès Bonfillon. À tout de suite.
Céline Landreau, Éric Brunet. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL.
RTL, il est 12h29.
RTL Midi. Le 12h30, Céline Landreau, Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous si vous nous rejoignez. Merci de rester avec nous si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL.
Et à 12h30, votre grande édition de la mi-journée, c'est avec vous Agnès Bonfillon, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Grièvement blessé par balle ce matin à Biscarrosse dans les Landes, Kenji Girac est désormais hors de danger. Le chanteur hospitalisé à Bordeaux assure qu'il s'agit d'un accident. La réforme des retraites prévoit la fin des régimes spéciaux. La SNCF met en place un accord pour permettre à ses agents de partir avant 64 ans selon la pénibilité de leur poste. Alors que la situation reste très difficile pour son armée, l'Ukraine reçoit une aide américaine de 61 milliards de dollars. De quoi reprendre son souffle, mais peut-être pas inverser le rapport de force. Et puis Bradley Barcola, sensation foot du moment. Hier soir, l'attaquant parisien a mené la vie dure à l'OL, son ancien club.
Elles avaient été lancées avec fracas et à grand renfort de communication par le gouvernement. Quel bilan pour les opérations PlaceNet XXL pour lutter contre le trafic de drogue? Un peu plus d'un mois après, RTL est retourné à Marseille et fait le bilan dans toute la France. Rendez-vous à 12h40. Et puis juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture. Alors que Back to Black, le biopic consacré à Amy Winehouse, est attendu mercredi, on va revenir sur ce phénomène des biopics au cinéma, un carton qui ne se dément pas. À partir de 13h, c'est vous qui prenez la parole au 3210. Eric ?
Ce phénomène complètement dingue des médecins qui sont médecins à vie. On a trouvé le témoignage de ce généraliste dans le Cantal, médecin à 75 ans. Il ne peut pas partir à la retraite parce que il a tous ses patients sur les bras, il n'a pas de successeur. Alors il reste. Et il y en a comme lui un peu partout dans le territoire. Si vous pouvez, si vous voulez témoigner, vous êtes vous-même médecin, vous avez vous-même un praticien qui est toujours à l'œuvre, qui est toujours médecin dans son cabinet à 75 ans, à 80 ans, appelez-moi au 3210. Le standard est ouvert et Victor vous attend dès à présent.
Et pour la météo, ce sera à la fin du journal, mais déjà clair de l'orme, un petit indice.
Alors ce sera gris dans l'ensemble avec des températures fraîches pour la saison et du vent qui va accentuer ce ressenti de froid.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Un accident domestique, selon Kenji Girac, actuellement hospitalisé à Bordeaux. Sa blessure par balle ce matin n'a rien de volontaire. Les gendarmes tentent d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé à Biscarrosse dans les Landes, sur une aire d'accueil des gens du voyage. Et pour ce faire, Plana Radenovic, il questionne le chanteur de 27 ans, désormais en mesure de répondre.
Oui, et la version donnée par le chanteur aux gendarmes ce matin est à prendre avec d'infinies précautions, nous dit une source au cœur de l'enquête. Ce qu'affirme Kenji Girac, donc, c'est que le tir est accidentel. Il a acheté une arme hier à une brocante, dit-il, et il s'est lui-même tiré dessus dans la poitrine en nettoyant cette arme. Les investigations se poursuivent pour vérifier cette version. En attendant, les enquêteurs ont effectué des prélèvements sur les mains d'une chanteur, les mains du chanteur d'une part et sur celles de sa conjointe d'autre part, afin de déterminer avec certitude qui a tiré. On vient de l'apprendre, sa conjointe a été entendue, comme c'est tout à fait classique dans ce genre d'affaires. Le chanteur gitan de 27 ans, lui, se trouve actuellement à l'hôpital de Bordeaux dans un état grave, mais il est conscient et surtout ses jours ne sont pas en danger. Il avait été hospitalisé en urgence ce matin. Les gendarmes sont intervenus vers 5h30 sur une aire de grand passage, là où se rassemblent les caravanes des gens du voyage. Le procureur de Mont-de-Marsan doit communiquer en fin de journée, le temps de démêler les fils des versions de chacun.
Merci beaucoup Plana Radenovic du service police-justice de RTL. Et si l'internat permettait de remettre certains jeunes dans le droit chemin, c'est l'une des pistes évoquées, vous le savez, par Gabriel Attal la semaine dernière. Depuis ce matin, le Premier ministre est à Nice au lycée du Parc Impérial. L'établissement, justement, met en place un dispositif pour accueillir des jeunes en décrochage pendant les vacances. Opération donc qui a débuté il y a quelques heures. Et Gabriel Attal, lui, vient de s'adresser aux élèves concernés.
Pour vous donner ce cadre dont vous manquez parfois, pour vous donner des repères, pour vous donner des clés de lecture, pour que finalement vous puissiez, en sortant de ce stage, vous dire bah voilà, peut-être que je faisais pas totalement les choses bien, peut-être que j'écoutais pas assez mes parents, pas assez mes profs, peut-être que je passais trop de temps sur les écrans, alors qu'il y a d'autres choses dans la vie que ça. C'est ça l'objectif de ce stage. Et d'éviter qu'ensuite, sur une mauvaise pente, vous vous retrouviez dans des situations où après, malheureusement, il y aurait une dérive et ça serait beaucoup plus grave. Donc saisissez-vous de cette chance, parce qu'elle est là pour vous.
Des propos recueillis par Arthur Bélier pour RTL.
La SNCF permet à tous ses agents de partir un peu avant la retraite, tout en étant payé.
Oui, depuis la réforme des retraites, c'était l'un des objectifs des syndicats de la SNCF. Les discussions ont été concluantes. Au moins 3 des 4 organisations ont validé cet accord. Accord qui permet donc à tous les salariés d'arrêter leur activité avant 64 ans, avant l'âge fatidique. Un départ anticipé, Nerissa Emani, qui varie selon la pénibilité du poste.
Oui, pour vous donner un exemple, un contrôleur avec au moins 20 ans d'ancienneté pourra s'arrêter de travailler un an et demi avant sa retraite, rester à la maison et recevoir 75% de son salaire. Ça, c'est pour les contrôleurs, considérés comme le métier le plus pénible. Aiguilleurs, conducteurs, agents des voies ferrées pourront, eux, partir jusqu'à un an avant la retraite et pour tous les autres agents, jusqu'à 9 mois avant. Alors, contrairement à ce que l'on peut penser, non, cet accord proposé par la direction n'annule pas la réforme des retraites. Pour les nouveaux embauchés, il faudra toujours cotiser 43 ans, mais ça améliore la fin de carrière et surtout, ça permet d'actualiser actualiser les dispositifs existants à la SNCF qui sont obsolètes et très peu utilisés par les agents. Pour l'heure, parmi les syndicats, seul Sudrail n'a pas encore validé le projet. Une réponse doit être donnée aujourd'hui, mais dans tous les cas, la mesure sera applicable dès janvier 2025.
Explication signée Nerissa Emani pour RTL.
On y reviendra d'ailleurs dans les auditeurs ont la parole. On parlera des médecins généralistes qui ne partent pas à la retraite pour commencer, mais ensuite on parlera de cette exception. Est-ce que vous trouvez, vous, que c'est justifié? Est-ce, selon vous, un retour aux régimes spéciaux? Dites-nous ce que vous en pensez. Dans les auditeurs ont la parole. On attend vos appels dès maintenant au 3210.
RTL Midi.
Après des mois de tractations, les États-Unis valident un plan d'aide à l'Ukraine.
Une enveloppe de 61 milliards de dollars a été votée ce week-end par la Chambre des représentants. Alors que les combats avec l'armée russe sont acharnés dans l'est du pays, d'ailleurs l'armée russe à l'instant même, revendique la conquête d'un village dans la région de Donetsk. Kiev se dit soulagé, même s'il va falloir plusieurs semaines avant que cette aide ne se traduise concrètement sur le terrain. D'ailleurs, Gauthier Delon-Bugard, à quoi vont servir très concrètement ces millions?
Eh bien d'abord, 10 milliards pour une assistance économique, soutenir le secteur de l'énergie, reconstruire les infrastructures et financer les dépenses de l'État. Le reste, 51 milliards, c'est essentiellement du militaire, achat d'armes et de munitions, notamment des obus de 155 mm essentiel sur le front. L'Ukraine en tire environ 2000 par jour. Ce matériel devrait arriver très rapidement sur le champ de bataille d'ici quelques jours, puisque selon une source diplomatique, des armes américaines sont stockées depuis des mois en Pologne ou en Roumanie. D'après nos informations, l'enveloppe va également permettre de renforcer les défenses antiaériennes à Odessa et Kharkiv, ciblées en ce moment par les forces russes.
Et Gauthier, cette aide, c'est 61 milliards de dollars. Ils peuvent vraiment inverser le rapport de force?
Et bien, en tout cas, ça va permettre de donner une bouffée d'air à l'Ukraine, nous explique une source diplomatique. Il n'y a pas eu de livraison d'armes américaines depuis fin décembre. Sans les États-Unis, l'Ukraine ne fait pas le poids face à la Russie. La pénurie de munitions a culminé en mars avec un rapport de 20 contre 1 en faveur de Moscou. Une forme de retour à l'équilibre donc, mais une guerre très loin d'être gagnée. Le général Vincent Desportes était l'invité de RTL ce matin.
Ça permet juste à l'Ukraine de tenir, et ceci pas immédiatement, dans un certain temps. Pour renverser le rapport de force, il faudra que ce soutien américain s'accroît, c'est qu'il continue, ce qui, évidemment, n'est pas acquis. C'est pour ça que les Européens doivent absolument continuer le plus rapidement possible à aider l'Ukraine par tous les moyens possibles.
Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent justement aujourd'hui pour discuter de l'aide militaire à l'Ukraine, notamment en matière de défense antiaérienne.
Gauthier Delon-Bugard du service international de RTL. L'actualité à l'étranger, c'est également la démission du chef du renseignement militaire israélien. Le général Aaron Aliva demande à ce que soit mis fin à ses fonctions en raison, je cite, de ses responsabilités au moment de l'attaque sans précédent menée le 7 octobre par le Hamas.
Le plastique est un fléau pour la planète. Le constat est posé, d'accord, mais comment le remplacer?
Eh oui, se passer de bouteilles à usage unique, ce n'est pas toujours évident. Quand bien même nous faisons l'effort d'avoir une gourde, il faut encore savoir où la remplir. Un collectif d'ONG et d'entreprises profite de ce lundi 22 avril, journée de la Terre, pour lancer un site internet. Ce dernier recense toutes les solutions pour éviter les contenants en plastique et propose même une carte de France des points d'eau, Virginie Garin, 20 000 lieux en tout.
Oui, car en France, tous les jours, nous consommons 40 millions de bouteilles de plastique et seulement la moitié sont récupérées et recyclées. Alors ce site propose une carte de lieux en France où on peut remplir sa gourde. Soit vous mettez l'adresse où vous êtes, soit vous êtes géolocalisé et apparaît l'endroit le plus proche et le chemin pour y arriver. Alors Muriel Papin dirige l'association No Plastic in My Sea. Sur sa carte, il y a des fontaines dans les villes, mais la loi oblige certains sites à en installer aussi.
Alors tous les établissements qui accueillent plus de 300 personnes en même temps. Donc ça va être les gares, les grosses stations de métro, des gros cinémas, des centres commerciaux.
En fait, c'est obligatoire depuis 2 ans, mais beaucoup de sites ne l'appliquent pas encore. Donc, il y a une autre solution, ce sont les commerces qui proposent de l'eau gratuitement, les boulangers, les restaurants ou les épiceries.
À Paris, je crois qu'on est à plus de 600 sur toute la France, le nombre de commerces. Alors, sur notre carte, il y en a au moins 10% qui sont des commerces. Donc, il faut vraiment saluer la démarche volontaire de tous ces commerces.
Donc, regardez hein, sur leur porte, il y a une signalétique qui vous invite à rentrer si vous voulez remplir votre gourde. Quand il fera très chaud cet été, ce sera franchement utile.
Et toutes ces informations, vous les trouvez sur le site objectifzerobouteilleplastique.org, tout attaché.
De l'eau au champagne, puisqu'on parle sport maintenant. Le PSG pourrait bien le sabrer, le champagne, dès ce mercredi pour fêter son 12e titre de champion de France.
Et hier soir, les Parisiens ont littéralement écrasé Lyon, 4 buts à 1 en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Parmi les joueurs qui ont fait vivre un véritable enfer à l'OL, l'un de ses anciens attaquants, Bradley Barcola, une étoile montante du foot français, Philippe Sansfourche.
Oui, la comète, hein, Barcola, parce que lorsqu'il a débarqué dans la capitale l'été dernier, alors que le PSG venait de débourser 180 millions d'euros pour s'offrir Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani, deux autres attaquants vedettes. On imaginait mal que ce serait lui, ce gamin de 20 ans, 21 aujourd'hui, qui s'imposerait sans discussion à une place de titulaire. Luis Enrique, son entraîneur en début de saison, l'a jeté dans l'arène à Lyon, son ancien club. Il avait montré un sacré caractère sous les insultes et les sifflets de ses anciens supporters. Bradley Barcola est désormais parisien à 100% et pleinement épanoui.
Ouais, c'est. Je sais que j'ai fait un très bon choix de venir ici. J'ai pas eu de doute sur mon choix, donc je suis vraiment très content. Je suis très fier d'être parisien aujourd'hui et j'espère qu'on va aller le plus loin possible.
Et pour cette fin de saison, ses ambitions se dessinent évidemment en club, avec un triplé historique toujours possible à Paris, mais aussi en sélection, reste à savoir laquelle. Et oui, puisqu'il est aujourd'hui l'un des piliers de la sélection Espoir, celle qui va disputer les JO sous la direction de Thierry Henry. Mais Didier Deschamps a évidemment lui aussi un œil sur lui et il pourrait bien être l'invité surprise de l'Euro.
Merci beaucoup Philippe Sansfourche. On vous retrouve avec Eric Silvestro et Florian Gazan dans le podcast quotidien de On Refait le Match. Un large débrief de plus de 35 minutes sur ce carton du PSG face à Lyon hier soir. À retrouver donc en ligne sur le site et l'appli RTL.
Et merci beaucoup Agnès Bonfillon. Le temps clair de l'Orme avec du vent cet après-midi.
Exactement. D'ailleurs, ce vent, il va accentuer la sensation donc de froid, vu qu'on a déjà des températures fraîches largement au-dessous des normales de saison. Et ben, ce vent, cette bise, ce flux de nord-est va s'engouffrer dans l'intérieur des terres et va même souffler de manière sensible entre 50 et 60 km/h, surtout près de la Méditerranée où ça pourrait dépasser les 80 km/h. Partout ailleurs, côté ciel, il faudra faire avec beaucoup de grisailles encore sur bon nombre de nos régions, surtout sur la moitié nord et la façade est, où ça sera vraiment très nuageux. On pourrait d'ailleurs avoir des averses qui vont se développer sur un large quart nord-est. Elles vont devenir un petit peu plus fréquentes en direction de la Provence et de l'île de Beauté. Elles pourraient même être accompagnées d'un orage. Attention à la limite pluie-neige. Elle va légèrement augmenter vers les 700-800 mètres. Mais là aussi, on peut avoir pas mal de neige. Donc là où ça sera un petit peu plus calme, ça sera en direction du sud-ouest avec de belles éclaircies. Et donc pour les températures, je vais vous donner quelques valeurs. Nous aurons 10 degrés à Metz, 10 degrés à Dijon, 11 degrés à Limoges, 14 degrés à Montauban, 16 degrés du côté de Toulon. Ça peut grimper jusqu'à 19 degrés pour l'île de Beauté.
Merci Claire. On marque une pause dans un instant. Les opérations Place Net XXL. Quel bilan aujourd'hui ? À tout de suite.
Céline Landreau, Éric Brunet. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi. Avec Éric Brunet et Céline Landreau.
Mais je trouve que c'est plus calme. Il y a moins d'histoire. C'est plus apaisé, on va dire, que le soir, on peut dormir. Parce que la police, ils sont là, non-stop. Du coup, les autres, ils sortent plus, quoi. Les jeunes. Vie normale, on va dire. Voilà, c'est ça.
Vous l'avez peut-être entendu ce matin au micro d'Étienne Baudu. RTL est retourné dans le quartier de la Castellane, là où avait été lancée le 18 mars dernier la première opération Place Net XXL. Depuis, d'autres ont essaimé, dans toute la France d'ailleurs. Et un mois après, RTL a voulu faire le point sur ces opérations Place Net XXL. Bonjour Sophie Neumeyer.
Bonjour.
Et bonjour Mathieu Lopineau.
Bonjour.
Mathieu, en direct de Nantes, on vous retrouve dans un instant. Mathieu, Marseille, on l'a dit, a inauguré ce dispositif, Sophie, mais aujourd'hui, il ne se cantonne plus à la cité phocéenne.
Oui, d'autres métropoles ont fait l'objet de ces opérations estampillées PlaceNet XXL, 9 au total. Marseille et ses environs, donc, et aussi la région parisienne, Lille, Lyon, Dijon, Clermont-Ferrand, Toulouse, Strasbourg et Nantes, dont le procureur dresse le bilan judiciaire ce matin. Mathieu Lopineau nous racontera.
5 semaines après, quel premier bilan peut-on tirer ?
Alors, les derniers chiffres ont été annoncés conjointement par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Certains paraissent impressionnants. Plus de 3800 interpellations depuis la mi-mars sur tout le territoire. Plus de 500 armes saisies, 4 tonnes de drogue, 20 millions d'euros saisis également. Cela semble beaucoup, mais le bilan judiciaire est plus restreint. Seulement un interpellé sur 6 a été présenté à un juge. Beaucoup ont été relâchés. 260 ont été jugés en comparution immédiate. 83 informations judiciaires ont été ouvertes pour des enquêtes au long cours. Enfin, 186 individus ont fait l'objet d'un mandat de dépôt et donc placés en détention.
Voici pour les chiffres nationaux. Mathieu Lopineau, vous êtes à Nantes. La justice, d'ailleurs, à Nantes, en Loire-Atlantique, a communiqué ce matin. Il y a eu 87 opérations dans la région en 3 semaines, c'est ça?
Effectivement, oui, sur l'ensemble du département de Loire-Atlantique, en 3 semaines, les 3 premières semaines du mois d'avril, ce qui a permis de mobiliser 4100 policiers et gendarmes, près de 6500 contrôles au total, et dans ces 87 opérations, il y a eu 180 gardes à vue, un chiffre record d'ailleurs en France, notamment grâce aux affaires, aux atteintes aux biens publics, les affaires résolues, c'est-à-dire des vols ou encore des cambriolages. Et puis le procureur de la République a également annoncé 11 kilos de stupéfiants saisi durant ces 3 semaines.
Oui, 11 kilos, c'est pas gigantesque, le chiffre n'est pas très élevé. Comment le procureur d'ailleurs le justifie-t-il ?
Ouais, effectivement, 11 kilos, hein, ça peut paraître peu en 3 semaines, surtout que le procureur de la République annonçait 50 kilos de résine de cannabis saisie début mars, avant donc cette opération XXL. Mais le procureur met en avant le nombre de gardes à vue record, 180 donc durant ces 3 semaines. Le but de l'opération XXL, selon le préfet, était de gêner, de voir qu'il y avait donc des actions sur le terrain. Place Nette a permis d'accélérer, selon lui, la lutte contre les atteintes aux biens, et le but de cette opération n'était pas d'avoir un record de saisie de stupéfiants. Il assiste là-dessus, le procureur et le préfet, mais surtout d'avoir plusieurs services des forces de l'ordre concentrés, coordonnés au même instant, au même lieu, ce qui n'arrive jamais habituellement, confie-t-il. Les différents services de police ont travaillé donc ensemble, en amont également, de ces opérations pour pouvoir les préparer, ce qui a permis de tenir le terrain, de résoudre des affaires plus efficacement et plus rapidement, d'interpeller et puis également par la suite de continuer les contrôles sur ces mêmes lieux d'interpellation. Résultat, 3 points de deal ont pu être démantelés à Nantes durant ces 3 semaines, sur une bonne dizaine encore aujourd'hui en activité. Et sur ces 3 points de deal fermés, les organisateurs de ces réseaux ont été interpellés et sont en prison aujourd'hui. Alors le préfet assure également que ces opérations en dehors de l'opération Place Nette vont se poursuivre. Elles ne seront pas pour autant donc toujours aussi concentrées que durant ces 3 semaines, mais le but sera de maintenir la pression, la présence sur le terrain et de gêner.
Beaucoup de communication, en tout cas, merci Mathieu, beaucoup de communication des autorités autour de ces opérations, mais cette communication, elle ne convainc pas tout le monde, Sophie.
Oui, pas vraiment, même si les habitants des quartiers visés par ces opérations reconnaissent que ça leur offre un certain bol d'air, un coup de propre autour de chez eux, disparition de certains points de deal, on l'a entendu, et puis de nombreux encombrants également. Ils craignent que cela ne dure pas. C'est aussi le sentiment de certains enquêteurs qui nous ont confié, voire plutôt des opérations cosmétiques. De la com, nous soufflent certains d'entre eux, outré que des unités de pointe comme l'OFAS, l'Office anti-stupéfiants, ou la BRI aient été sollicitées pour ouvrir les portes de certains de ces petits délinquants, alors qu'ils sont censés viser le haut du spectre, les têtes de réseau. Ce qui demande au contraire des investigations de longue haleine, des enquêtes plus poussées, qui selon ces policiers avec lesquels nous avons échangé, ne sont pas réalisables dans le cadre de ces opérations Place Nette.
Merci beaucoup Sophie Nemeyer, service police justice d'RTL, et merci Mathieu Lopineau à Nantes.
Dans un instant, Queen, Bob Marley et plus récemment Amy Winehouse, c'est le succès des biopics au cinéma.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Éric Brunet, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter midi.
Laissez-vous tenter midi avec du cinéma ce lundi. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour tout le monde.
Et Stéphane, comme vous êtes joueur, vous nous proposez un petit jeu en musique.
Alors, quel est le point commun entre ces 3 artistes ? D'abord celui-ci. Mais aussi celui-ci.
Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait.
Et enfin celle-ci. Michael Jackson, Charles Aznavour, Amy Winehouse.
Ils ont vendu quelques albums, c'est ça le point commun ?
Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a des adaptations au cinéma.
Voilà, alors, ils sont mourus, en effet, ils ont vendu pas mal d'albums, mais en effet, tous les trois vont avoir droit à leur biopic, autrement dit, leur biographie filmée. Pour Amy Winehouse, ça vient vite, c'est dès mercredi, avec la sortie du film Back to Black, qui retrace le destin météorique de la diva britannique de la pop et du jazz, disparue en 2011, à l'âge de 27 ans seulement. Pour le grand Charles, Le film Monsieur Aznavour, réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir avec Tahar Rahim dans le rôle-titre, sortira en octobre prochain. Quant à Michael, le biopic consacré au roi de la pop, il est encore en tournage et arrivera sur nos écrans en avril 2025.
C'est trois exemples récents, mais ils sont loin d'être les seuls. Mmh. Comment expliquer, Stéphane, cette mode? C'est une véritable mode de la biographie filmée des chanteurs, des musiciens, des groupes.
Alors c'est vrai que tous les studios s'y mettent. En fait, tout le monde surfe sur l'envie du public. Le film Bob Marley One Love, par exemple, qui est sorti en février dernier, a fait un carton, près de 2 millions d'entrées en France. En ces temps troublés, anxiogènes, incertains, on voit que les spectateurs ont apparemment besoin de se rassurer, de se faire du bien avec des valeurs sûres. C'est de la nostalgie cocooning, du patrimoine bien-être. Rien de mieux que des tubes et des artistes fédérateurs, même s'ils ont eu des vies souvent chaotiques, pour partager une émotion et puis se rappeler le bon vieux temps.
Et ça remonte justement à loin, ce phénomène ?
Alors, les biopics, il y en a quasiment depuis la naissance du cinéma. Figurez-vous qu'en 1909 déjà, Beethoven, pas le chien, hein, le compositeur, avait eu droit à son film. Ah oui, je préfère. Son film avec Harry Bohr, immense star du cinéma muet, dans la peau du musicien allemand. Ça ne s'est en fait jamais arrêté depuis. On se souvient de Amadeus, de Miloš Forman, consacré à Mozart, de La Bamba, des Doors, de Tina, consacré à Tina Turner, ou de Ray, qui parlait de Ray Charles. Mais le phénomène a été relancé en fait par deux films. D'abord en 2007, à l'échelle française, et puis mondiale ensuite.
Tu me fais tourner la tête.
D'Olivier Dahan, énorme succès, plus de 5 millions d'entrées ici, un Oscar, un César ou encore un Golden Globe de la meilleure actrice pour Marion Cotillard. On suivit chez nous des films sur Serge Gainsbourg, Claude François ou Dalida. Évidemment, les grands studios hollywoodiens ont entamé le même mouvement avec en 2018, autre date importante, le carton de Bohemian Rhapsody. La carrière de Freddie Mercury et du groupe Queen, près $1 milliard de recettes dans le monde. Là aussi, une pluie de récompenses pour l'acteur Rami Malek. Et puis, ça ne s'est plus arrêté. Elton John, Whitney Houston ou Elvis Presley ont également eu droit à leur biopic, avec des fortunes assez diverses au box-office et puis une qualité de film assez diverse aussi. Je pense notamment à Whitney Houston, c'était quand même assez raté. Mais la tendance est là, et bien là.
Et ça va continuer.
Oh que oui, Timothée Chalamet tourne en ce moment La vie de Bob Dylan. Sont annoncés bientôt en tournage des biopics consacrés, prenez des notes, hein, aux Beatles, aux Bee Gees, aux Beach Boys, à Bruce Springsteen.
C'est que des B en fait.
Pas encore, ça change. À Frank Sinatra devant la caméra de Martin Scorsese, c'est Leonardo DiCaprio qui incarnera le chanteur. À U2 ou encore, et là, c'est elle-même qui réalisera, à la Reine de la Pop.
Madonna va faire un propre biopic sur elle-même.
Avec sa fille dans son rôle. Comme ça, tout reste en famille.
Comment ça s'appelle un autobiopic?
Un autobiopic comme un autoportrait.
Mesdames, messieurs, je vais vous raconter ma vie. Ma vie est un roman.
Et Amy, c'est bien, vous l'avez vu déjà?
Oui, c'est très bien. Je pense que c'est un tout petit peu lisse et que si vous avez vu ce formidable documentaire qui s'appelait Amy, tout simplement.
Parce que là, c'est back to back.
Avec des images d'archives où le rôle du papa était quand même sujet à caution. Là, dans le film, bizarrement, c'est très, très, très angélique.
Mais
on en reparlera mercredi.
Aznavour avec Tahar Rahim cet automne, ça va être de la bombe, j'en suis sûr.
Ça va être les jeunes années d'Aznavour jusqu'au moment où le succès arrive. Ça va être passionnant.
Merci beaucoup. Formidable. Dans un instant, ces médecins qui ne peuvent pas raccrocher parce qu'il n'y a pas de successeur. On en a trouvé un qui a 75 ans dans le Cantal. C'est un fait majeur. Mais nous serons avec un médecin de 103 ans en grande région parisienne qui ne peut pas partir à la retraite parce que personne n'est là pour lui succéder. Cette histoire est dingue. À tout de suite.
RTL Midi.